Voilà, alors pour aujourd'hui, je vais faire donc la dernière séance que j'avais prévue, que j'ai intitulée « La médecine en animal religieux ». Je vais, bon, en fait, pour le dire très rapidement, hein, ça serait, l'idée c'est est-ce qu'on peut échapper au religieux, hein, c'est-à-dire que même quand on croit en être complètement débarrassé, dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas affirmer qu'il revient au galop? Et qu'à ce moment-là, le religieux, ça renverrait quelque chose de profondément humain. Je ne dis pas ça dans mon propos, ça ne signifie pas que... ça ne consiste pas pour moi à légitimer la religion. Mais au contraire, à poser le principe d'une exigence critique toujours en éveil et toujours plus grande, y compris dans le rapport qu'on peut avoir à soi-même. Alors, je voudrais commencer, comme j'ai fait les dernières fois, par commenter mon titre, « Le métier d'un animal religieux ». C'est en fait une définition de l'homme qui est proposée. C'est une définition qui est proposée sur le modèle des définitions aristotéliciennes. Puisqu'Aristote définit une chose par son appartenance à un genre, et il détermine à l'intérieur de ce genre une différence spécifique de species, qui veut dire espèce, et qui permet justement de définir l'espèce à l'intérieur du genre en reconnaissant sa caractéristique essentielle. C'est-à-dire ce qui fait son essence ou sa définition. Donc, la différence spécifique, c'est donc à la fois ce qui va distinguer, en l'occurrence ici, l'homme de toutes les autres espèces animales, donc il y a une idée de distinction, et puis qui va donc en même temps proposer une caractéristique qui lui, donc, non seulement lui est propre, mais qui permet donc de le définir, de comprendre qui il est. Alors dans l'histoire, hein, il y a Aristote dit que l'homme est un animal politique, les scolastiques, puis les philosophes c'est surtout les philosophes du XVIIe, en reprenant le principe de la définition scolastique, diront que l'homme est un animal raisonnable. On aura Schopenhauer au XIXe siècle qui dit que l'homme est un animal métaphysique. Donc ici, il s'agirait de se demander si l'homme est un animal religieux. Et on pourrait, dans ce cas, se demander justement si le définir comme animal religieux, ça peut être posé en contradiction avec cette autre définition qui le définit comme animal raisonnable. Alors, si on considère donc que l'homme est un animal religieux, ça voudrait dire qu'il réalise pleinement son essence dans la religion. Ça veut dire qu'il est le seul animal qui est une religion, qu'il est le seul animal, justement, qui est une croyance. Alors, dans la tradition rationaliste, justement, on va opposer à cette définition de l'homme comme animal religieux la définition de l'homme comme animal raisonnable. Avec l'idée qu'on va trouver développée amplement au XIXe siècle, que loin de réaliser son essence par la religion, l'homme au contraire aliène son essence. C'est-à-dire que dans la mesure où l'homme croirait, justement, il ne se réaliserait pas pleinement et il ne développerait pas pleinement son humanité. Alors cette idée, bon, on la trouve accompagnée en fait de l'idée finalement que la religion correspondrait à un stade infantile, à une enfance de l'humanité, et donc elle correspondrait finalement à une régression, alors que la raison correspondrait à l'âge adulte. Ça, on le trouve par exemple chez Auguste Comte, fondateur du positivisme au XIXe, qui distingue trois âges de l'humanité. Il y a l'âge religieux, l'âge théologique ou religieux qui correspond à l'enfance, l'âge métaphysique qui qui correspond à l'adolescence, et l'âge positif qui correspond à l'âge adulte. L'âge positif, c'est l'âge scientifique, où on s'occupe du réel, on s'occupe de ce qui est posé là devant, c'est le réel. Et en fait, les trois âges peuvent coexister, mais il s'agirait, pour Auguste Comte, justement, de permettre à l'homme de quitter définitivement l'enfance pour atteindre l'âge adulte. On trouve aussi cette idée-là chez Freud, alors là, ça sera plutôt, c'est plutôt au début du XXe siècle, dans La mère d'une illusion, où il pense également la religion comme régression, comme infantilisme. L'homme ayant besoin d'être protégé par un père protecteur, par un père qui est... Et il y a, donc on a en fait, mais c'est d'ailleurs une tendance positiviste qu'on a chez Freud, hein, puisqu'il reprend complètement le langage positiviste, sauf que comme on le verra, il a une distance vis-à-vis de lui-même qui est extrêmement intéressante, une distance critique vis-à-vis de lui-même qui est extrêmement intéressante. Mais justement, il dit l'homme doit justement accéder à la compréhension de lui-même et du monde par la science, alors il deviendra adulte et il quittera finalement l'enfance. Ce thème-là, on le trouve aussi, c'est pas tant d'enfance, enfin, l'idée d'enfance apparaît moins, mais on retrouve la même idée chez Marx, qui dit justement que les hommes doivent finalement passer d'une vision imaginaire du monde, qu'il renvoie en fait à l'idéologie, l'idéologie étant un système de représentation imaginaire à travers lequel les hommes perçoivent leurs conditions d'existence. Donc il s'agirait de passer d'un mode de représentation imaginaire à une représentation scientifique des conditions d'existence. Donc ça va vraiment être un leitmotiv à travers le 19e siècle. Et donc avec cette idée que l'homme finalement ne parvient pas à cette forme de responsabilité et de liberté de l'homme adulte dans la mesure où il continue à croire. Alors l'idée d'aliénation, on la trouve chez Marx, qui dit que la religion est l'opium du peuple, puisqu'elle le console en lui promettant un paradis à venir. On trouve aussi ça chez Feuerbach, ça s'écrit comme Feuer en allemand, F-E-U-E-R, Bach, B-A-C-H. Feuerbach est un contemporain de Marx, avec lequel d'ailleurs Marx a dialogué. Et Feuerbach, justement, ce qu'il montre, et c'est d'ailleurs une idée dont je me resservirai éventuellement, c'est que l'homme se dépossède de son essence en la projetant et en l'objectivant dans un être transcendant. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, ça serait... finalement, une manière pour l'homme de s'aliéner, puisqu'il projetterait finalement toutes ses qualités dans un être extérieur, dans cet être transcendant qui est Dieu. Donc, loin de réaliser son essence par la religion, l'homme au contraire s'en dépouillerait. Hein, et... resterait éternellement enfant et finalement se bercerait d'illusions, se contenterait finalement de cette aliénation qui lui apporte un bonheur opiacé, tranquillisant. Alors, en fait, donc ça, c'est ce programme finalement qu'on a. Et je souligne quand même que ce programme-là, on le trouve justement à la naissance des sciences humaines. Marx, fondateur de l'économie politique, Freud, fondateur de la psychanalyse. Et on pourra peut-être voir justement que la référence aux sciences économiques et sociales, à la sociologie et à la psychanalyse vont ressurgir à plusieurs moments dans mon exposé. Et donc il y a justement avec les sciences humaines cette idée justement pour l'homme de revenir sur lui-même par un retour critique, réflexif, pour tenter justement de se comprendre. Et avec cet espoir qu'on trouve tout autant chez Marx que chez Freud, chez Nietzsche peut-être moins parce qu'il est beaucoup plus, il pense de manière plus pratique, le soupçon systématique. Mais chez Comte, chez Freud ou chez Marx, on a l'idée que l'homme pourra enfin vivre, lorsque la science lui aura permis de grandir, l'homme pourra enfin vivre librement, libéré des illusions. Bon, finalement, on aurait l'idée que, grâce à la raison, il abandonnerait une fois pour toutes la croyance. Cette nature religieuse. Alors, à partir de là, justement, j'aimerais bien me demander, enfin, poser la question de savoir si on peut se passer de croire. Et en fait, je vais commencer par poser la question, qu'est-ce qui se passe si les hommes cessent de croire et s'ils cessent de croire en Dieu, s'ils cessent de respecter les commandements de la religion, etc. Alors, il y a une réponse, c'est une question qui est posée par Freud dans L'avenir d'une illusion. Et Freud répond en disant, de la part des travailleurs intellectuels, il n'y a rien à craindre, puisque finalement, ils seront retrouvés par d'autres biais, par le biais de la raison. Pourront fonder des valeurs, parce qu'en fait, ils sont créateurs de culture, dit Freud. Et à ce moment-là, ils peuvent très bien se passer des commandements de la religion, puisque par eux-mêmes, ils peuvent s'imposer, ils peuvent se donner à eux-mêmes la loi et puis se questionner pour savoir ce qui est le meilleur pour l'homme, pour la société, etc. Mais pour la grande foule des hommes opprimés et incultes, il y a un danger à craindre, dit Freud. C'est-à-dire que si la justice, finalement, si le commandement cesse de venir de Dieu, c'est-à-dire si ces hommes opprimés et malheureux et incultes, qui n'ont pas accès en fait au savoir, apprennent qu'on a cessé de croire en Dieu, apprennent que les travailleurs intellectuels, comme ils les appellent, ont cessé de croire en Dieu. À ce moment-là, cessent de croire en Dieu aussi, ils n'auront plus rien pour remplacer les commandements de la religion. Si bien qu'il faudrait, dit Freud, soit soigneusement empêcher les hommes de cesser de croire, parce que c'est la seule façon de maintenir un ordre social, soit changer de fond en comble le rapport de la religion à la société. Alors ça nous conduit en fait vers... Bon, il y a peut-être des choses que je vais répéter un petit peu par rapport à ce que j'avais déjà dit, mais je le réorganise autrement dans mon propos d'aujourd'hui. Ça nous conduit en fait vers ce que la sociologie, ce que Durkheim a appelé la fonction sociale de la religion. Au sens où, justement, on pourrait presque dire il n'y a pas de société sans religion. Et on entend à ce moment-là le religieux au sens de relier, parce que sinon c'est relégérer, et à ce moment-là c'est relire scrupuleusement. Donc à ce moment-là, on rappelle la fonction de lien social qu'occupe la religion, qui vient justement relier les hommes. Et justement, on pourrait se demander si, quand on supprime, à supposer que les hommes cessent de croire en Dieu, on pourrait avoir deux cas de figure. Justement, plus rien ne peut venir remplacer justement la religion telle qu'elle existait, comme croyance en un Dieu, et à ce moment-là, le lien social se délite, on se retrouve dans une situation de crise. Crise morale, crise du sens, crise du lien social, etc. Ça peut d'une certaine façon dans une certaine mesure, ça peut être appliqué quand même à la crise, que nous vivons actuellement dans nos sociétés. Sinon, on pourrait aussi montrer que là où la religion cesse d'assurer justement le lien social, ben, finalement, il y a d'autres formes de communions humaines, pour reprendre l'expression de Régis Debray, qui viennent prendre sa place. Et à ce moment-là, il y a l'idée finalement que si la religion disparaît, il y aurait d'autres formes du religieux qui viendraient prendre sa place. Et que ça serait, et que finalement il pourrait y avoir de communion humaine que à partir du moment où il y aurait des croyances communes. Donc ces croyances communes, elles peuvent être révolutionnaires, par exemple. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y a une croyance, un espoir, une promesse, une attente commune qui relie les hommes, une référence à certaines valeurs sacrées qu'on n'a pas, pas même à questionner, hein, la liberté, l'égalité, etc. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas justes, mais il y aurait, ça signifie que finalement, quand on sort d'une église, on se précipite pour en refonder d'autres. Et il me semble que, justement, bon là j'ai pris l'exemple de mouvements révolutionnaires ou de mouvements politiques qui, justement, n'échappent pas à ce qui s'appelle le messianisme, c'est-à-dire la promesse d'un avenir radieux, etc. Moi, il me semble que ces mouvements-là, ils auraient aussi tout à gagner à être capables justement de faire peut-être un petit peu de temps en temps une remise en question critique, un retour critique, justement sur cette espèce de fondement sacré, sacralisé, disons, hein, qui obstrue d'une certaine façon le sens critique et qui fait que on est pris dans ce que Freud appelle la psychologie des foules, hein, et où finalement on aliène aussi son sens critique jusqu'à un certain point, dans la mesure où on est pris dans une communauté. Le texte auquel, enfin la référence, l'expression que j'ai utilisée, hein, de psychologie des foules, c'est un texte de Freud, hein, c'est dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse, qui s'intitule « Psychologie des foules et analyse du moi », et où il montre justement, à partir de l'analyse de essentiellement de l'Église et de l'armée, il fait ressortir certains fonctionnements qu'on retrouve finalement au fondement de tout groupement humain et donc de la société, avec finalement, une foule qui fonctionne par identification, d'un chef. Alors, ça peut être le chef de l'Église, ça peut être le Christ, pour la religion chrétienne. Dans l'armée, ben, ça sera supérieur hiérarchique, etc. Mais on peut, d'une certaine façon, on a ça dès qu'on a un groupe humain. Enfin, quand je dis tout ça, moi, ça ne me fait pas plaisir spécialement. Je suis assez pessimiste, moi, sur ce genre de... C'est peut-être des choses dont on pourra discuter. Moi, ça me rend très, très pessimiste. Cette précipitation qu'on a, et qui relève pour moi d'un fonctionnement complètement inconscient, pas maîtrisé du tout, cette précipitation qu'on a à fabriquer des églises dès qu'on en a la possibilité. Et il me semble qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans cette situation, on abandonne jusqu'à un certain point notre esprit critique, et pour s'en remettre à une parole, pour s'en remettre à un credo d'une manière ou d'une autre. Alors oui, il y a justement, je parlais aussi de Régis Debray qui reprend un peu des thèses comme ça dans les communions humaines, le sous-titre c'est pour en finir avec la religion, et où en fait il montre que toute communion humaine ne peut se fonder que par référence à du sacré et par un processus d'identification entre ses membres. Donc on retrouve finalement ce qu'on a dans la religion, c'est-à-dire ce lien horizontal, c'est-à-dire le lien entre les hommes, qui se fait par référence commune, c'est-à-dire ce sont ces liens verticaux, qui se fait par référence commune à une référence, à une puissance. Alors ça peut être Dieu, ça peut être des valeurs sacrées, des valeurs morales, etc. Mais auxquelles justement on n'a pas le droit de toucher. Et on pourrait montrer que d'ailleurs dans notre société occidentale moderne, quiconque voudrait venir critiquer la démocratie sera considéré comme hérétique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a finalement faire une approche critique de la démocratie, c'est toucher à une valeur sacrée. Alors je ne dis pas critiquer la démocratie pour dire que la tyrannie c'est mieux, mais critiquer la démocratie, notre démocratie moderne, pour montrer tout ce qu'il y a de pensé dans son fonctionnement et qu'elle n'est peut-être pas si démocratique que ça, etc. Mais il y a comme ça des mots qui, autour desquels il y a finalement une espèce de culte, pareil pour le mot de liberté, et qui est inattaquable. De quel point de vue qu'on se situe, quel que soit le point de vue qu'on se situe, c'est-à-dire que ça soit le libéralisme. En fait, on se dispute le mot. Chacun se réclame de la liberté, et il y a là quelque chose qui est totalement intouchable, mais aussi peut-être non interrogé. Donc finalement, on continue à entretenir des illusions collectives qui nous soudent, qui nous rassemblent, et qui vont, par référence justement à ce sacré. Alors on pourrait, il y a peut-être aussi d'autres exemples qui peuvent être pris, qui moi me rendent un petit peu plus optimiste. Hein. On pourrait très bien montrer que l'art peut aussi occuper cette fonction de lien social et de communion. Au sens où il y a là justement quelque chose qui vient répondre à un besoin de spiritualité qui en même temps assure une forme de lien social dans la mesure où il y a un aspect communicationnel hein, pour reprendre les termes d'Habermas hein, entre fonction communicationnelle de l'art qui justement assure on pourrait très bien prendre l'exemple d'une salle de spectacle où finalement dans le spectacle lui-même il y a quelque chose qui passe dans la salle et qui rassemble tous les hommes et femmes qui constituent justement tous les spectateurs finalement en un être unique et qui se trouve finalement transporté, ravi mené au-delà de soi-même hein, dans cette espèce de communion collective. Pardon ? Alors, le sport, oui, effectivement, ça marche aussi comme ça. Mais, non, mais je fais un petit mouvement de... Parce que justement, malheureusement, dans le sport que j'admire beaucoup, hein, il me semble que justement, il y a tous les instants les plus immédiats et les plus spontanés qui ressortent. Alors que justement, dans l'art, on me référant aussi à Freud, on a une sublimation justement de toutes les pulsions. Quand il parle de la sublimation, hein, Freud dit finalement que nos plus grandes vertus naissent sur une muse de nos plus mauvaises dispositions. Donc il y aurait à ce moment-là des pulsions qui sont d'origine sexuelle et agressive, au niveau primitif, au niveau du processus primaire, qui se retrouvent détournées vers des buts plus précieux, c'est-à-dire des buts culturels qui ont des satisfactions substitutives, et en gros, qui permettent justement de détourner toutes ces pulsions agressives qui justement, dans le sport, trouvent... une issue parfois un petit peu... assez terrible. Donc, voilà, première chose, d'abord l'idée qu'il faudrait que l'homme abandonne justement ce caractère religieux pour enfin être lui-même et devenir adulte et se libérer, exister véritablement. Et puis, cette constatation, qu'est-ce qui peut faire lien ? À ce moment-là, on peut dire que même si justement les hommes cessent de croire, même là où ils croient être complètement débarrassés d'un élément qui est proprement religieux, c'est-à-dire une croyance qui les relie, il y a encore quelque chose de cette nature finalement, et qui les traverse inconsciemment. Hein, c'est-à-dire que finalement, à travers tous les développements que je vais faire, l'idée à laquelle j'arrive, c'est finalement que la religion est inconsciente. Hein, c'est bon, mais ça, j'arriverai petit à petit à ça. Donc là, j'en suis arrivée à la constatation. Les hommes ont besoin de croire en des. Ils ont besoin d'avoir des croyances communes pour être liés les uns aux autres. Alors on va dire, alors installons-nous dans les croyances communes, puisque comme ça, on fera du lien et tout ça sera bien. Donc ça voudrait dire qu'on renoncerait à tout usage critique de la raison. Mais à ce moment-là, on a amplement montré à travers l'histoire que si les hommes justement abdiquent l'usage de la raison et se contentent de croire, il y en a toujours qui sont prêts à venir prendre les rênes et qui vont diriger les hommes à leur guise. Donc on se retrouve avec la thèse des Lumières, les hommes sont maintenus finalement dans la domination et dans la soumission. Entretenir la croyance d'Spinoza, à l'Église, c'est l'asile de l'ignorance pour Spinoza, et finalement, entretenir la croyance, c'est maintenir les hommes dans la soumission, etc. Donc, précisément, on va avoir recours à une critique de la raison. Mais alors là, justement, il y a un questionnement dans l'avenir d'une illusion qui me plaît beaucoup de la part de Freud. Freud, en fait, dans l'avenir d'une illusion, il discute avec un interlocuteur fictif qui le contredit sans cesse, mais d'une façon qu'en fait, il exprime les doutes de Freud lui-même dans son travail de réflexion. Et en fait, cet interlocuteur fictif lui dit, mais c'est bien joli votre histoire d'un monde qui serait complètement débarrassé de toute croyance, de toute illusion. Mais est-ce que c'est pas, à son tour, ça, une autre illusion ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de tronquer une illusion contre une autre ? Une illusion qui a montré qu'elle marchait, puisque finalement elle apportait des consolations aux hommes, contre une autre qui, pour l'instant, n'a pas fait ses preuves, dit cet interlocuteur de Freud. Alors à ce moment-là, Freud prend la remarque au sérieux et dit que, il concède qu'il y a peut-être là effectivement une illusion. Et il va même jusqu'à, il est très ironique à l'égard de lui-même, il parle de notre Dieu le Logos. Donc il hausse lui-même finalement, il pose lui-même le Logos. Il le pose lui-même comme notre Dieu, concédant que ce Dieu est effectivement peut-être pas tout puissant, mais qu'il a quand même, qu'il nous permet quand même à la fin de nous rassembler autour d'un espoir commun, d'améliorer le sort de l'homme et par la connaissance. Et donc il y aurait, en fait. Et ça, c'est une idée qu'on a trouvée à travers une critique, d'une certaine manière, qu'on pourrait adresser au positivisme au XIXe siècle. C'est qu'en fait, la raison, à son tour, elle est l'objet d'une quasi-religion. C'est toute la période scientiste au XIXe. D'ailleurs, Auguste Comte, qui parle des trois âges de l'humanité, qui parle de l'âge positiviste, dans ses derniers textes, il fonde une église positiviste avec un catéchisme positiviste. Et lui, il est le grand prêtre de l'église positiviste. On a parlé de la paranoïa de Auguste Comte, je pense qu'il y avait quelque chose de ça quand même. Mais, alors, le catéchisme positiviste, il consiste dans l'éducation, dans l'enseignement. Et Auguste Comte, qui était socialiste, faisait partie justement un petit peu de ces socialistes utopiques du XIXe siècle, il donnait des cours d'éducation populaire dans le 20e arrondissement de Paris. Il a donné des cours pendant, 20 ou 30 ans. Et il donnait des cours aux ouvriers, aux classes modestes. Il leur enseignait 6 sciences. Il y avait les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie, la biologie, qui est une science qui naît au XIXe, et puis la sociologie. Il programme la sociologie, puisque pour Auguste Comte, on doit se passer non seulement de religion, mais également de métaphysique, et que la question morale et politique doit donc pouvoir être prise en charge par une science qu'il programme, qui sera la sociologie. Et donc, ce catéchisme positiviste, c'est un catéchisme porteur de valeurs humanistes et qui est fondé sur la connaissance du monde et de l'homme, et qui doit pouvoir permettre justement de l'avènement d'un monde fondé sur la rationalité, qui doit justement pouvoir permettre de libérer l'homme, etc. Mais ce qui est frappant, c'est que Auguste Comte reprenne ce vocabulaire de l'Église, du catéchisme, du grand prêtre, etc. On avait quand même un petit peu ça aussi avec... c'est peut-être pas exactement pareil, mais il y a quand même le culte de l'être suprême pendant la Révolution française. Je pense aussi à un passage d'un roman de Kundera. La valse aux adieux. Je crois que c'est la valse aux adieux. En fait, il passe dans une petite ville et il y a un mariage dans une mairie. Et en fait, il a toute une réflexion sur le fait que tant que le socialisme n'aura pas réussi à faire des cérémonies qui soient capables justement de remplacer les cérémonies religieuses de l'Église, il n'arrivera pas à relier les hommes vraiment. Et finalement, ce mariage, il semble très pauvre et dépourvu de toute dimension qui permettrait aux hommes justement de venir adhérer à quelque chose. Et finalement, il y aurait une dispersion justement des hommes, et parce que le socialisme n'arriverait pas justement à fonder une église aussi efficace finalement que celle de la religion. Donc, j'ai fait une digression, mais l'idée, donc, c'était que je retrouve à partir d'où je suis partie.
Auguste Comte et son enseignement.
Oui, avec, la religion a raison. La religion a raison. Le positivisme, que la science puisse tenir lieu de religion. Et donc, une croyance, une confiance très très grande finalement dans la raison, qu'on puisse se passer complètement de toute référence, non seulement religieuse, mais même à la métaphysique, qui est encore une fantasmagorie finalement, pour Auguste Comte. Alors il y a un auteur qui a critiqué ça de manière très efficace, c'est Nietzsche, qui justement... la thèse de Nietzsche, c'est que finalement, tant qu'on cherche la vérité, on est finalement... finalement, on est finalement dans une illusion que la raison, que le rationalisme entretient, et qui relève encore de la piété. Je vous avais cité la semaine dernière ce titre d'un aphorisme du Quai Savoie où il dit « En quoi est-ce que nous aussi nous sommes encore pieux alors que nous avons déclaré que Dieu est mort ?» On leur dit que son ombre planera encore longtemps sur les hommes. Mais il dit finalement « Notre besoin de questionnement et de vouloir finalement dévoiler la vérité, même si elle est insupportable, finalement, c'est encore une manière d'être pieux, c'est encore une manière, c'est-à-dire la croyance à la vérité, le besoin de vérité, finalement, ça serait quelque chose qui serait au fondement, finalement, de toute piété, et qu'on trouverait y compris dans le rationalisme et dans la recherche scientifique, de vouloir... Alors, à partir de là, on pourrait malgré tout faire... Il y a une distinction qu'on peut faire dans le texte de Nietzsche. C'est-à-dire que la critique qu'il fait de la raison et du questionnement, justement, elle est poussée jusqu'au bout, de telle sorte qu'il en vient, la raison se remet elle-même en question. Donc la philosophie du soupçon chez Nietzsche, elle est telle justement que la raison elle-même n'échappe pas à la critique, mais cette critique, c'est la raison qui l'amène, parce que c'est la raison qui est l'instrument de la critique. Et ce à quoi il arrive finalement, c'est que la raison, elle produit elle aussi des illusions, mais que finalement l'illusion elle est vitale. C'est-à-dire que on aurait besoin d'illusions pour vivre. L'homme est passé maître dans l'art de la dissimulation, comme il le dit dans le livre du philosophe, un passage qui s'intitule, toute la troisième partie du livre du philosophe qui s'intitule Sur la vérité et le mensonge au sens extramoral. Il dit l'homme est passé maître dans l'art de la dissimulation. C'est-à-dire qu'en fait, la tragédie, ce qui est tragique finalement, c'est que dans la réalité, le sens manque. Et finalement, on est jeté dans un monde, on est mortel, et on n'a finalement rien à quoi se rapprocher. Mais justement, cette philosophie du soupçon, elle vient à bout finalement de toutes les planches de salut qu'on a pu mettre en place pour réussir à surnager, à ne pas être englouti justement dans ce monde dans lequel on est jeté. Toute construction humaine, tous les systèmes de représentation sont en fait des illusions, des croyances dont on aurait besoin pour vivre. Donc on le retrouve là une fois de plus, c'est-à-dire finalement le besoin de religieux, j'en ai parlé au niveau de la fonction sociale de la religion, mais il y aurait ici, là, de manière encore plus, de manière encore plus profonde, finalement, ce besoin de croyance pour pouvoir vivre. Et Nietzsche dit justement, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité, et il n'y a que des interprétations du monde. Et donc finalement, il n'y a que des... C'est ce qu'il appelle le perspectivisme. C'est-à-dire qu'on voit le monde à travers une perspective, pour montrer que d'une culture à l'autre, la perspective n'est pas la même. Donc, la religion est une interprétation du monde, la science est une interprétation du monde, la métaphysique, l'art, tout ça sont des interprétations du monde. Mais en même temps, on a l'idée chez Nietzsche que toutes ces interprétations ne se valent pas forcément. Parce qu'il y en a qui, selon lui, sont plus utiles à la vie que d'autres. C'est-à-dire que les hommes peuvent très bien croire que... peuvent très bien entretenir des illusions qui leur permettent de vivre, mais qui, au bout du compte, se retournent contre la vie même. Et il le dit, ça, par exemple, de l'illusion religieuse, qui, selon lui, justement, vient retourner contre l'homme toutes ses forces, toute sa force créatrice. Et justement, cette capacité qu'il aurait de disons, de se déployer dans la pensée, dans l'art, d'affirmer d'une certaine manière son énergie, sa force vitale. Et dans la religion chrétienne, dont il parle précisément, il y aurait justement une espèce de commandement, finalement, de retourner sa force contre soi-même. C'est ce qu'il appelle finalement le ressentiment. Donc, toutes les illusions, toutes les interprétations ne se vaudraient pas. Et puis, il y a aussi une autre chose qui me semble importante chez Nietzsche, c'est que il y a une grande différence entre une illusion qui sait qu'elle en est une et une illusion qui ne le sait pas. Une illusion qui s'ignore. Donc, que ce soit chez Freud ou chez Nietzsche, à chaque fois, on a l'idée que finalement, dans la religion, par définition, on est dans l'illusion, mais on ne le sait pas. Puisque sinon, on ne croirait pas. Donc, si on croit, c'est qu'on est dans cette illusion. Freud parle même de délire. Celui qui est dans le délire, par définition, il ne sait pas qu'il est dans le délire. Ça, on trouve, par exemple, dans Le malaise dans la culture. Dans la mesure où il pense la religion comme de forme névrotique, comme étant une névrose collective, il pense que justement celui qui est pris dedans ne peut pas s'en rendre compte. Donc il y a là une illusion qui ne se sait pas comme illusion. On pourrait dire aussi que, par exemple, le réalisme naïf, le rationalisme naïf, qui pense justement que l'homme est absolument maître de lui-même et qu'il peut atteindre la vérité, c'est aussi une illusion qui s'ignore. Et là, il y a justement quelque chose qui finalement aurait aussi... Il y a aussi quelque chose de religieux là-dedans. Il y a aussi une foi dans la raison. Par contre, se rendre compte qu'on ne peut pas vivre sans illusion. Mais à ce moment-là, ça suppose une distance critique et une distance même ironique par rapport à notre condition. Et alors, pour Nietzsche, c'est dans l'art que c'est réalisé. C'est l'art qui réalise ça au plus haut point, puisque l'art, c'est justement une illusion qui vient recouvrir le fond fragile de l'existence, du voile de la belle apparence, comme il explique par exemple dans l'objet de la tragédie. Et également d'ailleurs dans Gai Savoir, parce que l'artiste en fait c'est celui qui a vu le fond tragique de la vie, mais qui a bravement décidé de rester à la surface. C'est le danseur de cordes. C'est aussi la pratique de la philosophie telle que Nietzsche l'entend. Le danseur de cordes justement c'est celui qui danse au-dessus du vide. Et à ce moment-là, il y a une illusion qui est entretenue. C'est-à-dire que là, on sait très bien que c'est de la fiction. Là, on sait que c'est du faux. Pourtant, c'est peut-être ce qui touche la manière la plus véritable, qui exprime peut-être de la manière la plus véritable notre condition. Donc, on a... dire que la raison elle-même... peut fabriquer des illusions et qu'elle peut être elle-même finalement l'objet d'une religion très répandue. On pourrait même montrer d'ailleurs que la science dans le sens commun aujourd'hui, elle a ce caractère sacré, indiscutable, irréfutable. C'est-à-dire que dans le grand public, elle est perçue d'une manière quasiment magique. Donc ici, dire que la raison peut à son tour produire des illusions, ça ne veut pas dire qu'on va balancer la raison et puis alors installons-nous dans l'illusion, puisque de toute façon, il peut y avoir des illusions. Parce qu'une fois de plus, ça ne fait que renforcer finalement la nécessité d'un usage critique de cette raison. C'est-à-dire donc d'une raison qui ne soit pas dogmatique et qui soit toujours sceptique, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire toujours questionnante, et qui justement nous permette de faire ce pas de côté, qui est celui qui, à mon sens, est fait par Nietzsche de manière absolument remarquable, tout à fait géniale, à travers toute son œuvre. Alors, à partir de là, j'avais envie de revenir à la question qui nous avait occupé depuis le début, du fondement de la morale. Parce que, justement, si on dit que... La question, c'est, est-ce que, et je l'avais posé dans les deux dernières séances, bon, j'ai montré que, justement, il était question d'asseoir la morale, de fonder la morale sur la seule raison. Je voudrais demander si la raison peut suffire à assurer, justement, le fondement de la morale. Ou s'il n'y aurait pas une certaine forme d'illusion, justement, où finalement la raison viendrait reproduire une certaine forme de croyance ou une certaine forme de foi. D'ailleurs, on pourrait très bien dire, finalement, ce que la raison produit comme principe de morale, c'est précisément exactement ce que la religion prescrit. Donc, à ce moment-là, on pourrait réinterroger. On pourrait reposer la question justement en insistant sur justement le fait que la raison elle-même, elle répond à un besoin vital. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que la raison elle-même, elle se fonde sur quelque chose qui la précède. Et que donc la conscience morale, elle ne serait pas un peu produit de la raison, mais c'est plutôt la raison morale qui serait elle-même le produit d'autre chose qui précéderait. Qui lui serait antérieur. Et donc ça, je le pense dans le cadre justement de cette critique du rationalisme, puisque ça consisterait finalement à dire que quand la raison s'accorde une confiance excessive, finalement, elle se donne un pouvoir qu'elle n'a peut-être pas. Et bon, et on a vu justement que quand la raison croit aveuglément en elle-même, elle peut aussi produire de l'impensé et puis aussi des. Disons, ne pas maîtriser les effets qu'elle-même produit dans cette espèce d'assurance ou de certitude d'être dans le vrai et dans le bien, en gros. Alors. Justement, s'il était question de revenir et de faire justement la genèse de cette conscience morale, alors c'est pareil, c'est peut-être des choses dont j'ai peut-être donné des indications en connaissance précédente. J'avais envie de me tourner du côté du texte de Freud qui s'intitule Le malaise dans la culture, et où il parle de la formation du surmoi. Et où il montre que. Les valeurs, le petit enfant n'a pas une connaissance innée du bien et du mal. Donc c'est par l'éducation que ça lui est transmis. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ça ne lui est pas transmis sous forme de commandement explicite. C'est transmis à travers, c'est dans le rapport à ses parents que le petit enfant va reconnaître ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il va gagner l'amour de ses parents quand il sera un bon petit enfant. C'est-à-dire qu'il sera sage et raisonnable, hein, entre la sagesse et la raison. Hein. C'est un petit enfant sage et raisonnable qui fait ce qui lui apporte l'amour de ses parents, en fait. Hein. Et puis, que quand il fait ce qui n'est pas bien, eh bien, il est pris en fait de l'angoisse de perdre l'amour des parents. Donc ça serait justement cette angoisse de perte d'amour qui ferait que le petit enfant va adapter finalement son comportement à l'attitude de ses parents et petit à petit apprendre à reconnaître en fait ce qui est bien. Et ce que Freud dit, c'est que par la suite, le petit enfant va en fait intérioriser les interdits qu'il a pu repérer. Et à ce moment-là, on va avoir la formation du surmoi, où d'une certaine manière, bon alors, C'est assez compliqué tout le texte, hein, où il parle de la formation du surmoi, parce qu'il parle en même temps d'une pulsion agressive qui est retournée contre soi-même. Donc finalement, on se punit soi-même, on s'impose à soi-même la loi et on se punit soi-même. Et il dit en fait, plus on est vertueux, et plus le surmoi est fort, et plus le surmoi est fort, et plus on est vertueux, etc. Mais en même temps, il dit, il y a malgré tout beaucoup d'hommes qui n'intériorisent pas véritablement la loi, et qui restent finalement dans un stade, il dit, infantile, puisqu'ils ont besoin de continuer à obéir et à plaire à un chef, et au bout du compte, à un dieu. Si bien que il y aurait en fait, pour la plupart des hommes, dit Freud, une incapacité justement à se donner à soi-même la loi et finalement la nécessité finalement d'obéir à une loi qui vient d'un chef. Mais alors justement pour l'image de Dieu, enfin, pour la formation, enfin, la croyance en Dieu, il y a quand même le passage de Guéton par le surmoi, parce que en fait, le surmoi, c'est l'intériorisation de l'instance paternelle qui représente la loi. Et donc, finalement, le surmoi, c'est le fait que j'ai plus besoin d'un père extérieur pour me donner la loi, puisque je me la donne à moi-même. Mais il va y avoir, malgré tout, une projection de ce tyran intérieur, de ce père intérieur, dans une instance supérieure, transcendante, qui est Dieu. Si bien que, en fait, il y aurait le Dieu, Dieu serait la projection du surmoi. La conscience morale, elle serait la formation, elle se formerait justement par intériorisation des interdits, et Dieu serait la projection du surmoi. En fait, c'est souvent assez. Il y a beaucoup de méandres hein, dans le texte de Freud quand il développe ces thèses-là. Parce qu'en fait, il y a à la fois l'idée que les hommes, ne se donnant pas eux-mêmes la loi, ont besoin d'obéir à la loi qu'il leur a donnée à l'extérieur, mais il dit aussi que Dieu, le Père, c'est la projection, justement, finalement, du surmoi dans une instance transcendance, qui se trouve réifiée, c'est-à-dire à laquelle on donne une réalité en soi. Ce qui signifierait en fait que Dieu il est. Ça justifierait enfin, l'expression de Lacan, enfin la phrase de Lacan qui dit Dieu est inconscient. C'est-à-dire en fait, ça serait une instance qui est inconsciente en l'homme, qui le dépasse et qui se trouve projetée en dehors de lui, extériorisée et réifiée. Et à ce moment-là, on pourrait se dire que. Si je ne crois pas en Dieu, parce que c'est un petit peu des questions que j'avais posées les fois précédentes, si je ne crois pas en Dieu, bon, alors on dit, je vais fonder la morale sur la raison, je vais m'appuyer sur la raison. Mais d'où vient l'injonction de faire le bien? Qu'est-ce qui fait qu'on est moraux, hein? Et à ce moment-là, il y aurait justement cette structuration du sujet moral par une référence justement au père et à la loi qu'il a intériorisé, qu'il a assimilé, hein, et qui fait que, ben, en gros, c'est mon surmoi hein, qui m'oblige à être moral. Hein. Et alors, ce surmoi, justement, je peux très bien le reconnaître comme une instance qui me transcende, mais qui, à l'intérieur de moi. Hein, et. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais l'idée que je voudrais avancer, c'est que même quand on se fonde sur la raison, il y a une instance qui relève de l'inconscient, par laquelle on est soi-même dominé, et qui fait que quand on se domine, justement, c'est pas l'ouvrage de la seule raison. C'est pas le fait de la seule raison. Une raison, une volonté qui serait suffisamment forte pour venir à bout des passions, des instants, etc. Mais quand on se domine, c'est aussi parce qu'on est dominé. Et parce qu'on est dominé par une instance justement d'intériorisation, de cette intériorisation des interdits et de cette intériorisation de l'autorité, hein, qui fait qu'on s'impose à soi-même l'autorité. Donc, toujours par rapport à la question « l'homme est-il un animal religieux ?», ben, il y aurait peut-être justement une instance transcendante et toute puissante qui loge en nous-mêmes, qui est nous, mais qui nous dépasse complètement en tant que sujet, rationnel, et dont la raison elle-même, finalement, dont la raison morale elle-même serait un effet. Hein, donc la raison morale, elle ne serait pas la cause de la conscience morale, mais elle serait finalement le produit ou l'effet, justement, de quelque chose de bien plus profond et par quoi, finalement, nous nous échappons à nous-mêmes. Franchement, je pense aussi, dans la phénoménologie, à l'expression qu'on trouve chez Heidegger, qu'on trouve aussi chez Lévinas, de l'appel. La conscience morale comme appel. Et comme appel qui vient de l'intérieur. Mais qui n'est pas du tout pensé, enfin, qui vient de l'intérieur chez Heidegger. Et chez Lévinas, c'est le visage de l'autre. Hein, c'est le visage de l'autre qui suscite cet appel que j'entends résonner en moi. Et cet appel, justement, il n'est pas pensé comme venant de Dieu, il est pensé comme venant de moi. Mais avec cette idée, justement, que je ne suis peut-être pas cette raison pleinement, se maîtrisant pleinement elle-même, mais qu'il y a en moi une part de moi qui m'échappe. Et ça, on peut le montrer donc non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. C'est pour ça que finalement, je me suis un peu tournée du côté de la sociologie d'une part et puis de la psychanalyse. La sociologie, justement, où on a l'idée d'un inconscient collectif, hein, et du côté de la psychanalyse. D'ailleurs, dans Le malaise dans la culture, Freud parle du surmoi collectif. Il appelle aussi le surmoi de la culture, qui est le surmoi collectif qui justement rassemble les hommes en un tout. Donc finalement l'idée à laquelle j'arriverai, c'est que finalement l'homme projette dans un être transcendant quelque chose qui est purement humain, trop humain, dit Nietzsche. Et qu'en fait, tout ce qui relève finalement de tout ce qui échappe, tout ce qui de l'homme lui échappe à lui-même, et qui pourrait être pensé comme peut-être sa propre transcendance, mais qui peut être aussi pensé tout simplement comme ce qui est de l'ordre de l'inconscient, collectif ou individuel, c'est cette espèce d'inconnu qui se trouve finalement projeté justement dans cette transcendance extérieure. Si bien qu'on retrouve finalement cette idée de Feuerbach qui dit que finalement quand l'homme rend un culte à Dieu, c'est lui-même qu'il vénère, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'il a une conscience indirecte, le terme qu'utilise Feuerbach, et justement, ce que dit Feuerbach, c'est qu'à partir du moment où on le formule comme ça, et où c'est seule la raison peut le formuler de cette façon-là, ben, elle n'est plus dans la croyance. Puisque, justement, le fait de vénérer Dieu, ça consisterait justement dans cet inconscient, hein, dans cette méconnaissance, finalement, de l'homme par lui-même, qui se projette justement dans cet être supérieur. Donc je pense que je peux m'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai soumis des questions qui sont un peu difficiles peut-être, mais en tout cas moi, c'est celle qui m'intéresse et qui me tombe dans la tête. Voilà. Donc, je réfléchis à tout ça. Donc je m'arrête là-dessus.